Les séminaires du Collège de France.
Messieurs, dames, bonsoir. Donc, je suis Christian Masquelier, professeur à l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens depuis 2000. J'ai eu le bonheur de croiser le chemin de Jean-Marie Tarascon, qui était également professeur à Amiens par le passé. Et je vais vous parler aujourd'hui de conducteur ionique au sodium, pour éventuellement envisager certains de ces conducteurs ioniques comme matériaux pour des batteries tout solides, qui est le cadre de ce cours, de cette série de cours de Jean-Marie. Alors, je travaille depuis de très nombreuses années sur la cristallochimie des matériaux pour batteries, que ce soit des conducteurs ioniques, comme électrolytes solides, ou comme matériaux d'électrode positive, pour les batteries au lithium, pour les batteries au sodium. Beaucoup de ces matériaux, en fait, sont inspirés de la nature, et on en trouve quasiment la plupart dans la nature, sous forme de magnifiques cristaux, et on peut admirer une magnifique collection de cristaux de cette nature, par exemple, tout près d'ici, à Jussieu, au musée de minéralogie et cristallographie. Alors, il y a des phosphates, vous voyez, des phosphates de fer, des silicates de fer. Je travaille beaucoup sur les matériaux polyanioniques qui contiennent donc des entités phosphates, sulfates, silicates. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce grand panorama là dresse plein de formules chimiques qui sont les composés avec lesquels les chimistes et les chimistes qui travaillent sur les batteries jouent. Énormément de matériaux qui sont soit des conducteurs ioniques, soit des matériaux d'électrode, qui contiennent donc des éléments de transition oxydables ou réductibles. Et beaucoup de ces composés sont effectivement utilisés dans de vrais systèmes électrochimiques, dans de vraies batteries commercialisées, avec, comme vous le voyez, des formules relativement simples, finalement. Et là, j'ai juste surligné en rouge des composés au sodium, qui sont très étudiés actuellement, pour diverses raisons que je vais exposer dès à présent. Alors, juste pour rappeler, bien sûr, on est dans le cadre du cours de chimie solide, du solide et de l'énergie de Jean-Marie Tarascon. Juste, bien sûr, rappeler que ce qui se passe dans une batterie lors d'une décharge, d'une batterie, c'est un transfert d'électrons, du lithium, vers le matériau d'électrode positive. Et la tension que l'on mesure dans la batterie, ainsi constituée, est directement relié à la différence du potentiel chimique du lithium dans l'anode négative et du lithium dans l'électrode positive. En gros, c'est l'énergie dont on va pouvoir disposer juste en jouant sur les niveaux d'énergie des matériaux qu'on va placer à l'anode et à la cathode. Et beaucoup de ces matériaux, pour fabriquer des batteries qui vont pouvoir cycler sur de très 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 grands nombres de cycles, vont engendrer plein de réactions qu'on va appeler électrochimiques, d'insertion-extraction du lithium, par exemple, ou du sodium. Et on veut que ces insertions-extractions de sodium ou de lithium soient réversibles pour pouvoir réaliser ces réactions pendant de très nombreux cycles, jusqu'à 2000, 3000, 5000 cycles pour certains matériaux. Donc, on cherche des structures cristallines qui vont permettre ces réactions extrêmement réversibles, bien sûr, pour pouvoir utiliser nos batteries très longtemps. Alors voilà, ça résume, ce transparent résume mes activités de recherche depuis bientôt une trentaine d'années, où je travaille sur la détermination des structures cristallines de nombreux matériaux pour batteries, conducteurs ioniques ou électrodes positives pour batteries, que l'on synthétise au laboratoire. Donc il y a énormément de cristallographie à réaliser sur les matériaux préparés au laboratoire pour être sûr qu'ils ont la structure cristalline, la composition souhaitée, et qui sont le lieu d'énormément de transitions de phase, d'ordre des ordres, de transitions électroniques et ou magnétiques, même à basse température, et qui sont, ces transitions de phase, une signature également de leur pureté et du fait qu'on a pu synthétiser la bonne composition. Je travaille énormément sur la détermination des mécanismes d'insertion ou d'extraction du lithium dans ces composés à l'aide de techniques in situ et ou operando, en particulier à l'aide de la diffraction de rayons X ou la diffraction de neutrons, au laboratoire ou dans les grands instruments. Alors j'illustre par deux transparents ici ce que l'on voit dans un matériau d'électrode positive. Un des matériaux les plus étudiés et commercialisés dans des batteries réelles est ce composé LiNiO2, duquel on peut extraire du lithium, et qui, par cette extraction du lithium, ici on parle de ce composé-là, là on représente une courbe composition-tension, donc c'est une courbe de charge du matériau d'électrode positive, qui donne lieu à plein de choses très 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 intéressantes, dont on peut observer la signature par microscopie électronique, qui sont des transitions d'ordre de charge et d'ordre des ions lithium sur le sous-réseau cationique. Alors ça a été le travail depuis très nombreuses années par le groupe de l'ICMCB à Bordeaux, et en particulier Claude Delmas. Plus récemment, ils ont étudié d'autres composés, à base cette fois-ci de sodium. Vous voyez, toutes ces accidents dans les courbes de variation de la tension en fonction de la composition sont directement liés à les transitions de phase. C'est magnifique pour un cristallochimiste, pour un électrochimiste du solide. On a accès ici à plein de nouveaux matériaux, plein de nouvelles propriétés d'ordre de charge sur les octaèdres VO6. Et ce travail plus récent a été mis en évidence par Marie Guignard à Bordeaux également. Ça me donne ma transition sur les matériaux au sodium. Les matériaux au sodium qui, donc, vous avez peut-être entendu parler de cela, qui attirent de plus en plus d'intérêt, et scientifique et industriel, du fait en particulier de la très forte hausse du prix du lithium et de sa rareté en termes de sites de production géographique. Donc, il y a un besoin de fabriquer d'autres systèmes électrochimiques que des batteries au lithium, du fait du coût du lithium, de sa rareté, pas forcément pour obtenir les mêmes propriétés que des batteries au lithium, c'est-à-dire qu'il est quasiment certain qu'on n'arrivera jamais à avoir des densités d'énergie aussi grandes que pour les batteries au lithium, mais on peut envisager des dizaines et dizaines d'autres applications que des véhicules électriques qui nous emmèneraient de Paris à Nice. Il y a plein d'autres choses à faire, et en particulier, essayer de fabriquer des batteries qui seront peu onéreuses grâce à l'utilisation du sodium. Alors, dans ce contexte, trois familles de matériaux sont essentiellement explorées comme matériaux d'électrode positif pour les batteries au sodium. Des oxydes lamellaires, des dérivés du bleu ou du blanc de Prusse, qui sont, comme l'a dit Jean-Marie, brevetés et protégés par de nombreux industriels, et des structures polyanioniques qui vont constituer l'objet de mon exposé, et qui là ont été à l'origine de la création de la compagnie Tiamat, dont vous avez peut-être également entendu parler récemment. Alors, cette entreprise, Tiamat, a été effectivement créée en France suite à un programme de recherche qui a été mis en œuvre au sein du réseau français sur le stockage électrochimique de l'énergie, autour de Jean-Marie et de plusieurs collègues de nombreux laboratoires français, ainsi qu'avec le CEA, et on a identifié un matériau très prometteur, Na3V2 PO4F3, qui nous a amené à construire des batteries réelles dans les conditions de production de vraies cellules industrielles pour démontrer qu'on avait des propriétés de cyclage extraordinaires, et ça déjà il y a une dizaine d'années. Ces découvertes nous ont incité un groupe de chercheurs français autour de Jean-Marie et de la Task Force Sodium, ici présente, a créé une entreprise qui s'appelle Tiamat, qui a été créée donc sur Amiens et hébergée au sein du Hub de l'énergie à Amiens, à l'Université de Picardie-Jules Verne. Alors, c'est toutes les étapes de la success story, on espère que le succès va continuer, de Tiamat, qui vient d'annoncer la fabrication prochaine d'une usine sur les terres picardes tout proche d'Amiens, suite à une très grosse levée de fonds, en particulier avec Stellantis, Arkema et MBDA. Donc, on peut être content de se dire que des matériaux étudiés au sein de nos laboratoires, de manière assez fondamentale, on va dire au départ, ont permis d'identifier certains d'entre eux comme étant très très intéressants pour réaliser des batteries de puissance au sodium. Et on est un petit peu les premiers dans le monde à avoir créé des batteries au sodium fonctionnant avec une telle puissance. Ça ne veut pas dire qu'on a été forcément aidé par le président Macron, mais sa venue à Amiens il y a 5-6 ans a peut-être donné un petit coup de pouce, en tout cas une visibilité à ses recherches et au développement de l'entreprise Tiamat, qui commercialise un produit maintenant, une visseuse dévisseuse, vendue très très peu cher par le roi Merlin. Et en fait, voilà, c'est du concret, c'est des batteries fabriquées sur Amiens, des cellules 1850 de format industriel, sont à l'intérieur de ces petits outils qui permettent de mettre en valeur la création de cette première entreprise commercialisant des batteries au sodium dans le monde. Alors, ces batteries au sodium contiennent un matériau polyanionique, Na3V2P4F3, constitué d'une formule un petit peu bizarre comme ça, mais que je vais illustrer, constitué de cations, d'éléments de transition, de polyanions, des phosphates, des silicates, des sulfates, et également ici d'un contre-anion, ici le fluor. Il existe une infinité de combinaisons possibles de ces éléments. L'élément alcalin pouvant être du lithium, du sodium, du potassium. Les éléments de transition pouvant être un petit peu ce qu'on veut, et les polyanions également, et les contre-anions également. Avec tout ça, ce n'est pas juste la pêche à la ligne, il y a de la raison dans tout ça, surtout que ces matériaux réagissent selon des règles un petit peu établies maintenant, en particulier sur les capacités qu'ils vont délivrer, puisqu'on va pouvoir être capable de prédire le nombre de lithium ou de sodium qu'on va pouvoir insérer ou extraire, mais également, comme je vais l'illustrer, fonctionnant à des potentiels ou à des tensions versus le lithium ou le sodium, prédéterminé en particulier par l'effet inductif de ces anions et polyanions ici. Alors beaucoup de toutes ces découvertes, ces recherches et, sont issues du cerveau, du génie, de la contribution immense de John Goodenough, qui nous a malheureusement quittés l'année dernière et qui a eu le prix Nobel de chimie en 2019 pour toute son œuvre, on va dire, mais en particulier autour des batteries au lithium, avec deux collègues. Alors, dans les nombreuses découvertes de Goodenough, les spinels, les oxydalis CO2, etc., il y a également la structure nacicon dont je vais parler aujourd'hui abondamment. La structure nacicon qui, je vais un petit peu déjà mettre mon slide de conclusion, mais comme j'espère que ça va vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, qui permet, grâce à sa structure cristalline, de diffuser des ions sodium de manière très très rapide, donc un avantage pour des applications de puissance, et comme matériau d'électrode, et comme matériau d'électrolyte solide. Grâce à l'effet inductif que je viens d'évoquer, on peut monitorer la tension de fonctionnement de nos batteries et donc un petit peu choisir la tension délivrée par le système électrochimique qu'on va fabriquer. Limiter par exemple les potentiels en fonction des électrolytes solides qu'on utiliserait, ou même également envisager, c'était le cas dans pas mal de publications, même deux ou trois entreprises qui sont créées, envisager même des batteries au sodium aqueuses qui travaillent dans une fenêtre de potentiel qui correspond avec le domaine de stabilité de l'eau. Et puis, dans la structure nacicon, on peut utiliser des éléments de transition qui permettent d'échanger plus d'un électron par élément de transition, en particulier autour du manganèse et du vanadium, pour obtenir des matériaux avec des capacités intéressantes. Et en 2014, avec mes collègues d'Amiens, et Fabien Lallaire en particulier, dont c'était le sujet de thèse, nous avions déjà fabriqué une batterie tout solide au sodium contenant un électrolyte solide de structure nacicon et deux matériaux d'électrode positives et négatives de structure nacicon également. C'était déjà il y a une dizaine d'années et vu les progrès récents réalisés sur les batteries au sodium et en parallèle sur les batteries tout solides, Nous avons repris récemment les activités sur la fabrication de batteries tout solides au sodium que je vous présenterai en fin de mon exposé. Alors, cette structure d'un silicon, de formule ici AM2P3O12, peut être utilisée donc selon deux axes. L'axe matériaux d'électrolyte, électrolyte solide, on retrouve l'élément zirconium dont Jean-Marie a parlé juste à présent, qui a la bonne idée d'être très peu réductible et très stable à l'état d'oxydation 4+. C'est ce qu'on veut pour un électrolyte solide, qui ne soit pas l'objet de réactions électrochimiques de réduction ou d'oxydation. Mais à l'inverse, on peut, à la place de M ici, mettre du vanadium, ou du titane, ou du chrome, ou du fer, etc., pour là avoir des matériaux d'électrode qui vont délivrer de la tension avec l'insertion ou extraction d'ions lithium ou d'ions sodium dans ces matériaux. Donc la même structure, c'est ça le cœur de mon exposé, on va dire, la même structure utilisée soit comme matériau d'électrode positive ou négative, soit comme matériau d'électrolyte solide. C'est la nature des éléments chimiques qu'on va mettre dans ce matériau qui va déterminer leurs propriétés d'électrode ou d'électrolyte solide. Alors, cette structure cristalline est basée sur l'enchaînement d'octaèdres MO6 et de tétraèdres XO4, par ce qu'on appelle une structure lanterne, et qui donne vraiment quelque chose de très 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 spécifique à ce matériau. C'est qu'il est construit sur une charpente tridimensionnelle, extrêmement stable chimiquement, qui ne va pas donner lieu donc à de destructions structurales au cours du cyclage électrochimique. Et donc déjà des matériaux sur le papier un petit peu idéaux en termes de durée de vie et de stabilité structurale sur le cyclage électrochimique de très très longue durée. La formule chimique est donnée ici et on va se promener autour de cette formule chimique-là. Alors, les composés au sodium, par exemple, si on choisit X égale P, le phosphate, PO4 3-, par différents types de substitution et sur le site alcalin et sur les métaux de transition, en fonction du degré d'oxydation stable de ces métaux de transition, on va pouvoir avoir toute une gamme de matériaux, vous voyez, de Na0 ici à Na4 ici. Donc déjà, ça nous dit, et tous ces matériaux sont aisément synthétisables, on va dire, et en fonction de ce qu'on veut faire, de la tension qu'on va vouloir obtenir, en fonction de si on veut faire une électrode négative ou une positive, etc., on va synthétiser l'un de ces matériaux qui ont été identifiés, vous voyez, déjà dès 1978. Donc, il y a du travail de fait et il y a beaucoup de connaissances dans la littérature. Ces matériaux et ces éléments de transition fonctionnent à différentes potentiel par rapport au sodium, et c'est ce que j'illustre là, hein. Pour le couple vanadium 3+, vanadium 4+, on est à 3,8 volts par rapport au sodium, pour le couple vanadium 3+, 2+, on est à 1,7. Donc c'est ce que j'illustrais tout à l'heure, on choisit en gros sa tension de fonctionnement. On choisit sa tension de fonctionnement également en choisissant le polyanion. Vous voyez, on passe d'un sulfate à un molybdate ou un tungstate ou un phosphate, pour le même couple redox, fer 3+, fer 2+, donc très très intéressant pour des applications de batterie également, où on veut pas de cobalt, ou pas de nickel, ou pas de vanadium, etc. Ça va dépendre du coût qu'on veut mettre dans la batterie qu'on va fabriquer. Mais vous voyez que le potentiel redox du fer 3+, fer 2+, est à 3 volts ici pour un molybdate, et il est à 3,6 volts pour le sulfate de fer. Donc, ça c'est l'effet inductif qui a été introduit par Mantyram et Goudinov dans les années 80. Et qui permet de nouveau, non plus là en changeant le couple redox, mais en changeant le polyanion, de déplacer la tension de fonctionnement. Et d'énormes, grandes quantités de matériaux ont ainsi pu être synthétisés pour, dans la structure d'un silicon, pour faire varier les taux de lithium, hein, pour différents composés avec différents éléments de transition, ou des sulfates, ou des phosphates, etc. Et ce transparent regroupe un petit peu toute une gamme de matériaux et de compositions et de tensions obtenues pour toute une gamme de teneurs en lithium. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Je vous ai dit que c'est une structure très 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 stable sur le cyclage. C'est également une structure qui permet d'accueillir entre, pour la même formule structurale, charpente M2XO4 3-, pour la même formule structurale, entre 0 et 5 lithium dans le composé. Donc on peut même rêver à se dire, on pourrait éventuellement, si on avait un élément de transition miracle, pouvoir extraire réversiblement 5 lithium pour 2 éléments de transition. Ça n'est pas encore arrivé, rassurez-vous. Alors, maintenant, si on se place... tiens, ce transparent revient, je l'ai déjà présenté, je crois. Sur les composés... Voilà. Nacicon comme électrode positive, ça regroupe un petit peu les différents composés d'importance sur lesquels on travaille, qui montrent qu'on peut passer de 0 sodium dans la structure à 4 sodium dans la structure, entre 1,5 volts ici, vous voyez, pour NaX V2PO4 3 fois, jusqu'à 4,3 volts pour NaX Cr2PO4 3 fois. Donc toute une gamme de matériaux qu'on va pouvoir choisir, et utilisant des éléments de transition à plusieurs coupures redox ou du fer, par exemple, très important pour fabriquer des batteries au sodium peu chères. Très important pour le sodium. Alors, après cette introduction un petit peu détaillée sur l'intérêt des batteries au sodium et la structure nacicon qui a été évoquée par le passé, je vais illustrer deux grands... aujourd'hui. La première partie sera consacrée à des découvertes récentes qui ont été réalisées dans notre groupe et en collaboration avec l'Université de Singapour et puis avec l'Université de Bordeaux en particulier, sur différentes compositions de type nacicon, utilisées donc comme électrode positive. La deuxième partie que j'évoquerai sera donc nos efforts récents également sur la fabrication et le cyclage de batteries tout solides, utilisant certains de ces matériaux et utilisant des électrolytes solides de structure nacicon également. Alors, concernant le composé Na4VMNPO4 3 fois, Goudinov, encore lui, en mélangeant et en chauffant simplement en atmosphère inerte les deux composés extrêmes. Alors, ça nous a permis de déterminer cette fois-ci sa structure cristalline, préparée de manière chimique, que l'on a comparée à la structure cristalline obtenue de manière électrochimique. Et nous avons trouvé certaines ressemblances avec la forme identifiée électrochimiquement par le passé, mais avec des taux d'occupation sensiblement, très nettement différents sur les deux, le sous-réseau de cation sodium, Na1 et Na2. Et par l'apparition de petites raies de diffraction, là, un petit peu compliquées à analyser en détail, sur lesquels on est encore en train de travailler, mais pour lesquels une bonne solution semble bientôt atteignable. Alors, je vous ai dit qu'on avait mélangé Na3 et Na1. On a fait ça en fait pour toute une série de compositions, avec des rapports Na3 sur Na1 différents, et obtenu pour l'ensemble des matériaux, des compositions observées, des diagrammes de diffraction monophasés. Donc la découverte d'une solution solide NaX V2PO4 3 fois, qui n'avait jamais été observée par le passé, pour un composé sur lequel il y a des centaines et des centaines de papiers déjà publiés dans la littérature. Ça m'a rappelé de très bons souvenirs, et à Jean-Marie également j'imagine, un petit clin d'œil au passage, sur le composé LiFePO4, pour lequel, avec Charles Delacour, par le passé, on avait pu... déterminer l'existence d'une solution solide également entre LiFePO4 et FePO4 par chauffage au-delà de 250-300 degrés Celsius. C'était également quelque chose d'assez important à l'époque, puisque LiFePO4 est un matériau très important industriellement, sur lequel une petite recherche juste très fondamentale, en fait, nous avait amené à la découverte d'une solution solide et non plus d'un système biphasé pour se composer. Alors, pour revenir à Na3V2PO4 3 fois, on a obtenu toute une gamme de matériaux avec différents rapports volume sur formule chimique, V sur Z ici, qui témoignent de la synthèse, l'identification d'une nouvelle phase, NaXV2PO4 3 fois, jamais observée par le passé. Et la beauté de la chose, c'est que cette phase Na2V2PO4 3 fois, à la différence du composé Na3V2PO4 3 fois, je le rappelle, pour lequel des dizaines de papiers sortent chaque mois, présente cette courbe électrochimique avec une capacité massique Oui, massique, identique quasiment à celle de Na3V2PO4, mais avec, comme vous le voyez ici, un potentiel moyen de fonctionnement bien plus élevé que Na3V2PO4. Donc ça veut dire quoi? Potentiel est plus élevé pour une même capacité, ça veut dire plus de densité d'énergie pour un matériau très étudié, juste par, et sans avoir à faire aucune substitution chimique, juste un mélange de deux phases et une nouvelle phase formée à température autour de 400-500 degrés. On voit mieux ici la différence là entre les deux matériaux, leur comportement électrochimique respectif, avec pour Na2V2PO4, bien sûr, une première zone d'extraction du sodium sur le couple V3-V4, mais une deuxième zone d'extraction du sodium sur le couple V4-V5 cette fois-ci. Puisque dans Na2V2PO4, on a du vanadium 3+, et du vanadium 4+. Donc un sodium V3+, V4+, un sodium V4+, V5+. On n'a pas encore tout compris, on a déposé un brevet, et là je pense qu'on était largement avant les industriels, Jean-Marie, petit clin d'œil par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. On a déposé un beau brevet, je ne sais pas s'il sera gros, s'il sera important, mais en tout cas on a protégé cette découverte, puisqu'on a découvert un nouveau matériau avec une densité d'énergie largement supérieure de près de 20% au composé Na3V2PO4. Il présente, vous voyez ici, une variation continue du potentiel en fonction de la composition, typique d'un mécanisme monophasé, du début à la fin, et non plus cette fois-ci biphasé ou triphasé, un mécanisme monophasé du début à la fin de l'extraction du sodium dans ce matériau. Ça me fait un petit peu penser aux Rolling Stones, ça, mais vous voyez là, en fait, on voit aussi, on a pu quantifier, affiner, déterminer la variation des taux d'occupation des sites sodium sur les sites N1 et N2 de la structure Nacicon. Ça marche remarquablement bien et c'est très très réversible. Ça nous a permis d'obtenir le composé V2PO4 ici pour la première fois, jamais observé par le passé. Ça, ce sont les diffractogrammes ici Na0 V2PO4 obtenus en fin de charge, un composé sur lequel des cristallochimistes se sont mordus les doigts pendant une trentaine d'années. Beaucoup de personnes se sont posé la question s'il existait. On l'a découvert et on en est très content. Je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé, qui sera un petit peu moins longue, sur le Nacicon maintenant comme conducteur ionique et donc comme électrolyte solide dans les batteries tout sodium que je vais assembler avec des matériaux d'électrodes positives et négatives que je vous ai montré tout à l'heure pour les recherches sur les matériaux d'électrodes de structure Nacicon. Alors, effectivement, cette fois-ci, j'oublie le vanadium, j'oublie le fer, j'oublie le titane. Je vais utiliser du zirconium. Un moyen de jouer avec la conductivité ionique de ces matériaux, c'est de faire des substitutions, comme Jean-Marie l'a beaucoup montré sur les électrolytes solides, argirodite, oxychlorure, etc., etc. Et faire varier le taux de sodium dans ce matériau, ça se fait très facilement en faisant varier. Ah, j'ai oublié, il y a une petite erreur dans la formule, là, c'est P1-X, en faisant varier le rapport silicium sur phosphore. On remplace du phosphore 5+, par du silicium 4+, et donc on introduit du sodium en plus dans le matériau. Donc le taux de sodium dans le matériau est très important, puisque, en gros, c'est la concentration d'espèces mobiles, mais cette concentration, on ne veut pas qu'elle soit trop grande non plus, puisque sinon les ions sodium ne vont plus pouvoir assez facilement diffuser. Donc il y a des concentrations optimales, une sorte de rapport entre espèces mobiles et lacunes, espaces lacunaires, pour pouvoir favoriser le transport. C'est l'image d'un bouchon sur une autoroute, l'image d'un amphi plein, où on peut moins facilement bouger que dans cet amphi, où vous êtes bien distribué en lacunes et en sites occupés. Alors, les conducteurs ioniques au sodium, comme les conducteurs ioniques au lithium, font l'objet d'énormément de recherches, et il y a plusieurs familles structurales. Il existe des borohydrures, il existe des antimonures, des thiophosphates, hein, ici les Na3PS4, thiophosphates d'étain, etc. Et ici, on voit, ça représente la gamme de conductivité ionique observable dans les structures Nacicon. Chaque trait correspond à un matériau qui a une fois été trouvé, hein, donc ça veut dire, vous voyez qu'il y a énormément de composés de structures Nacicon qui ont été synthétisés depuis 1976, d'accord, et leur découverte par Goudinov. Donc c'est là-dessus que je vais me concentrer, et sur les compositions, bien sûr, qui comportent les meilleures conductivités ioniques. Effectivement, Ong et Goudinov ont publié ce magnifique article en 1976 dans Materials Research Bulletin, qui n'a rien à voir avec Nature Energy ou Nature Communication, hein, c'était des journaux beaucoup plus sobres à l'époque, hein, mais des découvertes fondamentales où on voit la variation de la résistivité, là c'est pas la conductivité, l'inverse, la résistivité en fonction de X dans cette formule. Donc vous voyez, on retient, hein, à fort taux de sodium, autour de 3,2, 1 plus X, hein, X égale 2, 2,1, 2,2, c'est le minimum de résistivité. Les ions sodium passent à travers ce qu'on appelle des bottlenecks ou des goulots d'étranglement, hein, pour diffuser au sein de cette charpente tridimensionnelle. Ce composé Na1 plus X égale 2 SiX P3 moins XO12, donc en fonction de la valeur de X, on obtient Na1 ZR2 PO4 3 fois ou Na4 ZR2 SiO4 3 fois, d'accord, qui adoptent tous les deux, à température ambiante, une structure rhomboédrique dans le groupe d'espace R-3C. Il n'y a pas de distorsion monoclinique, tout est rhomboédrique, tout est simple et joli. Le composé Na3 ZR2, ici, là, par contre, présente à température ambiante une forme monoclinique due de nouveau à l'ordre d'ion sodium et de lacune dans ce matériau, qui est, comme je vous l'ai montré pour Na3V2 pour 4 fois, qui, cet ordre, est démoli, on va dire, par un simple chauffage autour de 150-200 degrés pour obtenir une structure complètement conductrice ionique, complètement désordonnée, des ions sodium dans la charpente. Alors, dans le cadre d'une ANR, d'un projet NA Master, une ANR internationale avec nos collègues de Singapour et le groupe de Piero Canepa, on s'est attaqué à ces conducteurs ioniques. Eux, ils sont spécialistes de chimie théorique et de modélisation par DFT, par calcul ab initio, Monte Carlo, etc., etc. Donc je suis complètement incapable de vous parler en détail. Mais en tout cas, on a étudié la diffusivité et donc la conductivité du sodium dans ces structures de composition Na6Con et identifié une gamme de composition plutôt proche de X égale 2,5 que X égale 2, dans lesquelles, sur lesquelles se concentrer pour obtenir les meilleures conductivités ioniques possibles. C'est vraiment des très bonnes conductivités ioniques qui sont de l'ordre de grandeur de celles que Jean-Marie vous a présentées pour les conducteurs ioniques au lithium, de structure argirodite ou autre. Alors, nous avons, dans le cadre de la thèse de Yunik Mahioni, qui s'est soutenue en décembre 2023, préparé de nombreuses compositions en faisant varier X tout d'abord, à l'aide de différents précurseurs, on a essayé différentes voies chimiques par mécanosynthèse, par sol-gel, par dissolution de ces précurseurs, puis chauffage progressif, etc., pour obtenir toute une gamme de compositions de X égale 1 à X égale 2,4 ici, systématiquement accompagnées de quelques petits pics d'impureté, très très souvent présentes dans la fabrication de ces Na6Con, et en particulier de la zircone, très difficilement... que l'on peut très difficilement éviter, d'accord, et que l'on observe quasiment pour toutes les compositions fabriquées. Alors on a un petit peu plus travaillé sur la synthèse et mis au point des techniques de synthèse pour s'affranchir de la présence d'oxyde de zirconium, puisque l'objectif étant d'obtenir le matériau le plus conducteur possible, sans impureté si possible. On a réussi, pour ces matériaux ici, là, à obtenir une composition exempte d'oxyde de zirconium. Donc vous voyez très 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 bien ici la disparition. Donc ça c'est très important, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail et d'acharnement, mais c'était important pour pouvoir après vraiment étudier les propriétés de conduction ionique intrinsèque. Alors ces propriétés de conduction ionique intrinsèque, on les voit ici résumées sur trois échantillons typiques, Na2,5, Na3, Na3,4, donc le composé phare ici, que nous avons synthétisé, que nous avons modélisé, et dont on voit ici la variation de la conductivité avec la température. On observe même une petite rupture de pente ici, là, autour de 330 Kelvin, qui n'est pas du tout un accident, qui est la signature d'une transformation de phase entre la forme monoclinique de basse température et la forme rhomboédrique classiquement observée pour toutes les structures Na6Con. Donc, ces transitions de phase, ordre-désordre des ions sodium sur le sous-réseau alcalin, se traduisent toujours par une variation de la pente de la conductivité en fonction de la température, et donc une diminution de l'énergie d'activation dans la phase la plus conductrice désordonnée à haute température. Alors ce travail, j'ai oublié de le mentionner, a été réalisé avec Olivier Guillon aussi et Kyun Ima du laboratoire Jülich en Allemagne. Alors, on revient maintenant, et c'est mes derniers slides quasiment, à ce composé Na3V2PO4O3, que je vous ai évoqué plus tôt, qui présente la particularité soit d'être oxydable par extraction de sodium sur le couple V3+4+, à 3,4 volts versus sodium, soit réductible par réduction du vanadium 3 en vanadium 2+, cette fois-ci à 1,6 volts par rapport au sodium. Ça vous dit quoi, ça, tout de suite? On peut utiliser donc le même matériau, Na3V2PO4O3, et en cathode et en anode. Bon, donc on peut fabriquer une batterie avec le même matériau de part et d'autre d'un électrolyte solide. Ça a l'avantage, tout ceci, de fabriquer une batterie dont la tension initiale sera même de 0 volts, puisqu'il s'agira du même matériau placé et en anode et en cathode. Extrêmement important pour la technique de mise en œuvre que je vais vous présenter juste après. Donc ces trois composés-là ont une structure cristalline bien déterminée, avec des taux d'occupation des ions sodium bien déterminés, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc vous retenez que 3,4 moins 1,6, ça nous amène à une batterie de 1,8 volts, théoriquement. D'un côté, on va extraire le sodium, de l'autre côté, on va insérer le sodium, avec la même différence de potentiel. Donc c'est ce qu'on a réalisé, c'est ce qu'on avait réalisé, je vous ai dit déjà, en 2013 avec Fabien Lallaire. On savait que ça allait marcher, donc là on a utilisé un matériau Nacicon vraiment optimisé en termes de chimie, en termes de composition pour avoir la meilleure conductivité possible, que l'on mélange donc au Na3V2PO4O3 et à l'électrode positive et à l'électrode négative pour fabriquer ce genre de batterie tout solide, avec des proportions variables du matériau d'électrode et du conducteur ionique, parce que bien sûr il faut amener les électrons et il faut amener les ions du matériau d'électrode à l'autre matériau d'électrode via l'électrolyte solide qui joue là donc le rôle de séparateur et de conducteur ionique pour que les ions passent de là à là. Alors on a assemblé ces batteries par une magnifique machine qui s'appelle une machine de spark plasma sintering ou de frittage flash, qui a été installée dans notre laboratoire depuis presque une dizaine d'années, qui permet de fabriquer des batteries tout solides par pressage sous un courant très important, sous courant, et en fonction de la température également. Pressage pour fabriquer donc des pastilles très denses, et là, ici, pour assembler des composites de trois couches, hein, je reviens dessus, pour assembler ce genre de choses là, trois pastilles différentes, et les assembler par frittage sous courant et sous pression et en température. Alors on a bien sûr testé la réactivité ou pas de notre composé Na3V2PO4O3 avec l'électrolyte solide, NZSP, et à notre grand plaisir, on a constater qu'ils ne réagissaient pas l'un à l'autre. Donc on pouvait vraiment fabriquer des composites, électrodes, électrolytes solides, et à la négative et à la positive. Et ça, dans les conditions de fonctionnement et de frittage que l'on allait utiliser en SPS pour fabriquer nos batteries tout solides. Voilà ce que l'on obtient. On obtient ce genre de galette là, avec donc l'électrolyte solide en blanc au milieu, une pastille monolithique, toute solide, qu'on obtient, qui fait 10 mm de diamètre, qui fait un peu plus d'un centimètre, presque un centimètre, oui, d'épaisseur. Non, pas un centimètre, un millimètre d'épaisseur, pardon. Et on voit là, au microscopie électronique, la magnifique interface obtenue grâce au frittage flash dans l'appareillage SPS. Ces batteries donc peuvent être cyclées électrochimiquement grâce à ce type de cellules que nous avons fabriquées au laboratoire, qui sont juste un long tube avec deux pistons en inox, au milieu duquel on place la batterie, là, d'accord, dans un tube en quartz, à l'abri de l'air, et dans un four pour pouvoir être cyclé à différentes températures. Nous avons obtenu de magnifiques courbes électrochimiques, certes à haute température, mais ça ouvre aussi d'autres voies. On peut fabriquer maintenant des batteries qui fonctionnent à des températures hautes que la température ambiante, grâce à l'électrolyte solide, qui est stable à cette température-là, et comme vous le voyez, qui donne lieu à des batteries sans aucune polarisation, quasiment, qui donne lieu à des batteries qui ont la capacité totale des matériaux d'électrodes placés dedans, et qui contiennent donc que des composés de structures nacicon et en anode, et en cathode, et en électrolyte solide comme séparateur. Alors, on a réalisé 2, 3, 4, 5 batteries de ce type qui fonctionnent et qui cyclent sans trop de problèmes. C'est-à-dire là, on est sur 15 cycles. On ne dit pas qu'on a découvert encore le Pérou, mais c'est une bonne voie, avec les moyens du bord qui ne sont pas des moyens industriels, où on pourrait faire du tape casting, on pourrait faire de l'élaboration avancée de céramique, mais vraiment, on est très 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 optimiste sur le fait qu'il faut continuer là-dessus, puisque des courbes électrochimiques de cette nature-là sont très prometteuses, en ne contenant que du sodium, et tous les trois composés étant de même structure cristalline. Ça favorise donc la très belle interface par SPS, et très récemment, grâce à Kriti, une doctorante au laboratoire, et Jean-Noël Chotard et Vincent Seznec, on a développé une cellule permettant de faire de la diffraction X opérando en transmission, au travers, comme vous le voyez ici, de cellules de fenêtres de beryllium, qui ont la bonne idée d'être quasiment transparentes aux rayons X. On peut placer donc une batterie tout solide dans ce genre de cellules, que l'on peut chauffer plus ou moins à la température désirée et qui nous permet de faire de la diffraction pendant le cyclage électrochimique d'une batterie tout solide. Donc pour observer, pour comprendre encore mieux les phénomènes se produisant aux deux électrodes positives ou négatives de la batterie tout solide considérée. Donc ça c'est un petit peu nouveau puisque il y a eu peu d'études de diffraction in situ sur les batteries tout solides jusqu'à présent. Et ça a l'avantage de pouvoir être réalisé même au laboratoire, grâce à un diffractomètre à anode tournante que nous avons. Bien sûr, on peut faire toutes ces choses-là en rayonnement synchrotron, mais on peut également faire ces diffractogrammes-là. Ils ont été obtenus, à Alba, au synchrotron Alba, mais des expériences similaires sont réalisées dans notre anode tournante au labo. Voilà, je conclue maintenant pour donc faire un petit récap de cette magnifique structure nacicon. J'ai un petit peu baigné là-dedans pendant toute ma carrière. J'ai travaillé pendant ma thèse déjà sur des conducteurs ioniques au sodium, donc je suis ravi d'avoir l'opportunité de vous parler de tout ça ici. Pour bien partir avec les messages suivants, on a une charpente tridimensionnelle permettant le transport très rapide d'ions sodium. C'est super important. Ce n'est pas le cas de nombreux matériaux d'électrode positive au lithium, par exemple. Cette diffusion très rapide des ions sodium est utile et pour les matériaux d'électrode et pour l'électrolyte solide, qui va nous servir de séparateur dans une batterie tout solide. Je vous ai parlé surtout du Na3V2 PO4 3 fois, mais on peut travailler également avec du fer, on peut travailler avec du manganèse, et on peut choisir d'autres polyanions, tels que des sulfates, par exemple, ou des silicates, qui vont nous permettre, et en particulier pour le fer, de travailler à des potentiels très intéressants et à faire des batteries au sodium très peu chères, on l'espère. Donc nous avons des travaux de thèse actuellement sur des nacicons de structure contenant du fer. Les éléments manganèse et vanadium donnent lieu à des réactions électrochimiques complexes avec plusieurs électrons échangés par élément de transition. Des problèmes très intéressants au niveau fondamental également sur l'évolution structurale autour du vanadium en fonction de son degré d'oxydation et en particulier lorsqu'il est au degré d'oxydation 5+. Et avec tout ceci, je voudrais vous remercier de votre attention et remercier mes collaborateurs très proches à Bordeaux, à Alba, au synchrotron avec François Faute, à Bordeaux avec Laurence, Dany et Emmanuel Petit, à Amiens, Vincent, Jean-Noël, Virginie et Criti. Antenola Yadekola qui travaille au synchrotron à Soleil et pour le RS2E avec qui on mène plein d'études sur l'absorption X en fonction du cyclage et notre équipe de collaborateurs à Singapour qui est maintenant à Houston aux États-Unis. Tiamat bien sûr a financé une bonne partie de ses recherches ainsi que l'ANR international avec l'Université de Singapour. Merci pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.